Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Alors ce matin, nous continuons la série que nous avons commencée il y a quelques mois, maintenant, quelques semaines, sur prendre l'habitude d'être heureux. Et le thème que nous voyons, c'est comment ne pas stresser. Qui n'a jamais stressé dans ce lieu ? À prier pour le mensonge. Si tu es un être humain, tu as déjà stressé. Sinon, tu n'es pas humain. Et pourtant, on va voir, au travers de la parole de Dieu, qu'il est possible de ne pas stresser. Vous savez, le stress est un réel fléau. Au niveau mondial, il atteint un record comme jamais auparavant. En Europe, le coût du stress est évalué à 20 milliards d'euros par an. En France, le coût social du stress au travail est compris entre 830 millions et 1656 et 1 milliard 656 millions d'euros. Tout ça pour le stress. L'Organisation mondiale de la santé dit que la France arrive au troisième rang des pays recensant le plus grand nombre de personnes en dépression liées au stress au travail. C'est un très mauvais podium. Sur plus de 200 et quelques pays, l'Organisation mondiale de la santé place la France en troisième position. Là, il faut que l'Église fasse quelque chose. 4 salariés sur 10 sont en stress en France. Pour des raisons de non-satisfaction des exigences personnelles, des relations difficiles avec la hiérarchie, pour des relations difficiles avec les collègues, pour des soucis de promotion, d'argent, la santé, le stress peut être causé par toutes ces choses-là, le travail, le relationnel, la santé, les relations, le manque de sommeil, les mauvaises habitudes alimentaires. Tout ça peut provoquer le stress. Mais les conséquences du stress sont désastreuses. Le stress peut provoquer la démotivation, le manque de productivité, mais pire que ça, il peut provoquer la maladie. Le stress provoque des maladies cardiovasculaires, des maladies musculaires, la dépression. C'est pour ça qu'en France, c'est estimé à 830 et quelques millions d'euros le coût social lié au stress. C'est vraiment un fléau. Pire encore, le stress peut causer la mort. Le stress pousse beaucoup de gens au suicide. Et donc le stress est un réel fléau. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre sans stress. Et la parole de Dieu va nous donner ce matin 5 principes anti-stress. Ce n'est pas les principes d'un médecin, mais les principes de Dieu lui-même. Ce n'est pas le traitement d'un docteur, mais le traitement de Dieu. Et le traitement de Dieu est bien plus efficace avec sa parole. Vous savez, Philippiens 4, on a étudié tout ce livre depuis qu'on a commencé cette série sur prendre l'habitude d'être heureux, nous donne plein de pépites extraordinaires pour vivre une vie riche en joie. Et ce matin, nous allons voir Philippiens 4, à partir du verset 6 au verset 13. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne la recette anti-stress qu'on verra en 5 points. Donc Philippiens 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin renouvelé l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Puissant passage ici de l'apôtre Paul, tellement riche en vérité, riche en promesses pour nous permettre de vivre sans nous inquiéter de rien. Mais souvent, la plupart du temps, dans la parole de Dieu, les promesses sont soumises à des conditions. C'est-à-dire, s'il y a des si, je te donnerai ça si, je te bénis si. Il y a souvent, dans la parole de Dieu, pour bénéficier, expérimenter, pratiquer et vivre les promesses de Dieu, des conditions aussi à pratiquer. Et c'est ce que nous allons voir dans ces cinq points. Le premier point, si je veux me préserver du stress, je dois refuser de m'inquiéter pour tout. Je dois refuser de m'inquiéter pour tout. C'est possible de refuser, de choisir d'arrêter de s'inquiéter pour tout. On a vu dans Philippiens 4, 6, la parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et le mot grec pour rien, c'est le mot « médéis », qui signifie « rien ». C'est-à-dire, si je te dis, ou si là tu m'entends dire, la parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien », mais toi, tu te dis en toi « Ouais, c'est facile à dire ça, mais... » Si tu n'as pas compris la profondeur du mot grec « médéis », ça signifie « rien sans mais ». Il n'y a pas de « mais ». Oui, mais mon travail, oui, mais mes voisins, oui, mais mon passé, oui, mais mes parents, oui, mais mes collègues, oui, mais ma santé, oui, mais mon futur, oui, mais mes finances. De « rien » signifie « rien ». Et c'est possible de ne s'inquiéter de « rien ». Pourquoi il est si important de refuser de s'inquiéter? Parce qu'on a vu tout à l'heure quelques raisons, quelques exemples de causes pour le stress avec le travail, avec les relations, avec le manque de repos, etc., etc. Mais la première cause, la vraie source du stress, ce n'est pas le travail, c'est l'inquiétude. Le vrai problème, la vraie cause du stress, ce n'est pas le travail, c'est l'inquiétude. Nous devons comprendre cela. Tu peux travailler sans t'inquiéter, mais tu peux te reposer en t'inquiétant beaucoup. C'est l'inquiétude le problème. Le travail, par exemple, n'empêche pas de dormir. L'inquiétude, si. Donc c'est l'inquiétude le souci. Et nous allons... dans ce premier point, essayer de réellement méditer sur ce qu'est ou ce que n'est pas l'inquiétude ou ce qui provoque. Et Jésus est conscient que l'inquiétude est un fléau pour l'homme. Et il en parle notamment dans le passage du sermon sur la montagne qui commence de Matthieu 4 jusqu'à Matthieu 7. Il fustige l'inquiétude. Jésus pointe du doigt l'inquiétude. Il dit par exemple au verset Matthieu 6, 25, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger ou boire, ni pour votre corps, de ce que vous allez vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus important que le vêtement ?» Et dans tout le chapitre 6, Jésus n'arrête pas de dire « Ne vous inquiétez pas de ceci, ne vous inquiétez pas de cela. » S'il nous dit « Ne vous inquiétez pas », c'est qu'il est possible de ne pas s'inquiéter. Jésus ne ment pas. Et dans ce premier passage, au verset 25, il est en train de dire « L'inquiétude, c'est déraisonnable. Arrête de t'inquiéter, ce n'est pas logique. L'inquiétude, c'est déraisonnable. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude va toujours exagérer ton problème et jamais diminuer ton problème. Si tu penses par exemple à un problème ou quelqu'un, ton collègue de travail par exemple, qui parle mal de toi, si tu ressasses ça constamment et ça t'inquiète, l'inquiétude va grossir ça. L'inquiétude n'est pas logique, c'est déraisonnable. L'inquiétude, c'est aussi contre nature. Parmi tous les êtres que Dieu a créés, les animaux, les galaxies, ce que vous voulez, tous les anges, etc., l'être humain est le seul qui s'inquiète. C'est contre nature. Dieu ne nous a pas créés avec de l'inquiétude. Au verset 26, il dit « Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment pas ni ne moissonnent pas. Ils n'entassent rien dans les granges. Et cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Verset 28-29, Jésus dit « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Regardez les lys des champs. Ils ne s'inquiètent pas pour les leurs. Cependant, le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu qu'eux. » Jésus est en train de dire, les animaux ne stressent pas. Le lys des champs ne stresse pas. Ton chat, le matin, ne dit pas, est-ce que mon maître, là, va me donner à manger aujourd'hui? Quand il a faim, il vient peut-être ronronner. Mais au départ, lorsque la journée commence, il ne dit pas, est-ce que mon maître va prendre soin de moi aujourd'hui? Le lys des champs ne dit pas, est-ce que je vais vraiment, lorsque je vais commencer à grandir, est-ce que je vais vraiment atteindre mon plein potentiel? Est-ce que je vais vraiment grandir et croître jusqu'au bout? Je vais m'inquiéter pour ça. Non! Les plantes ne stressent pas, à moins qu'il y ait un saisissement, mais en général, les plantes ne stressent pas. Les animaux ne stressent pas non plus. Jésus dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils volent, ils planent, ils sont contents. Et ils mangent. Et Jésus dit, mais attends, vous valez plus que les oiseaux du ciel. Et votre Père dans les cieux le sait. Il est en train de dire, Dieu n'est pas le Père des oiseaux. Il est leur créateur, mais vous, il est votre Père. Donc arrêtez de vous inquiéter parce que c'est contre nature. On n'est pas né avec l'inquiétude. C'est pour ça que Jésus dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Les enfants ne stressent pas le matin pour savoir s'ils vont manger ce midi. Ils demandent parfois, qu'est-ce qu'on mange? Mais ils ne stressent pas. Je me rappelle, plus jeune, je me souviens de ça, lorsqu'une fois on était parti faire des courses avec ma maman, je ne sais plus si c'était des jeux ou quelque chose à manger, je lui dis, tu peux acheter ça pour moi s'il te plaît? Et elle me regarde, elle me dit, ben j'ai pas de sous. Je la regarde, je lui dis, mais fais un chèque. On va lui dire, mais réfléchis maman quoi. Je dis, maman, ben fais un chèque, prends ton papier là, écris dessus le montant, et hop. Je dis, c'était pas mon souci de savoir comment elle faisait pour trouver de l'argent et pour pourvoir à mes besoins. Et c'est important de comprendre ça. L'inquiétude n'est pas innée. On le chope en grandissant. C'est ça le problème. Les enfants ne naissent pas inquiets. C'est pour ça que c'est contre nature. La bonne nouvelle, c'est que si on a appris, on peut désapprendre. J'ai déjà pris cet exemple ici avec nous à l'église. Imagine ton enfant toujours en train de baliser pour tous les matins, tous les 5-10 minutes, et qu'il vient te voir, qu'il dit, papa, tu vas acheter des vêtements pour moi? Tu dis, ton armoire est plein. Merci. 5-10 minutes après, papa, tu vas vraiment acheter des vêtements pour moi? Tu dis, mais ton armoire est plein. Il vient de déjeuner, puis est-ce que ce midi, tu vas me donner à manger? À un moment donné, si tous les 5-10 minutes, il réagit comme ça, tu dis, ce maman, elle a un problème. À un moment donné, tu te dis, mais il y a un souci avec mon enfant, là. Et tu as envie de le prendre dans tes bras, tu te dis, hé, je t'aime, quoi. Je vais prévoir pour toi. Tu es mon fils, je suis ton papa. Papa, dis papa. Le problème, c'est que les enfants de Dieu nous ont agi comme ça avec Dieu. Ça fait moins rire, là. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas, comme on a chanté tout à l'heure, qu'on est ses fils, qu'il est notre père. N'arrive pas à réaliser. Et on s'inquiète. Et on s'inquiète du futur, de tout, du travail, des finances, du couple, des relations, tout. Or que l'inquiétude, c'est contre nature. L'inquiétude, c'est aussi malsain. C'est pour ça que ça provoque des maladies. Quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, On pourrait dire, si vous préférez, ne t'inquiète pas de ce que tu manges, mais inquiète-toi de ce qui te mange. Et l'inquiétude nous ronge. L'inquiétude nous mange de l'intérieur. C'est pour ça que nous devons faire attention. Proverbe 12, 25 nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, à l'intérieur. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme le détruit. Vous savez, le mot « inquiétude » dans la parole de Dieu signifie être troublé, être anxieux par des soucis, lorsqu'on recherche à promouvoir ses propres intérêts. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on devient anxieux par des soucis lorsqu'on commence à tellement vouloir promouvoir nos propres intérêts. Le mot souci signifie une distraction qui nous sépare de la paix de Dieu. Le mot inquiétude. L'inquiétude prend racine dans la peur. La peur de manquer, de ne pas recevoir ce qu'on veut, etc. Et la peur nous étrangle, et la peur nous paralyse, et la peur nous étouffe. Il n'est pas bon de s'inquiéter. À notre point, l'inquiétude n'est d'aucun secours. L'inquiétude ne changera pas ta situation. Elle change toi. Comment ? Elle vole ta joie. Elle transforme ta joie en tristesse. Elle transforme ta paix en détresse. Elle ne donne aucune réponse à la situation. Elle ne change pas la situation, mais elle change toi. L'inquiétude, comme dit Jésus, qui, par ses inquiétudes, peut rallonger sa vie ? On ne peut pas rallonger la vie avec nos inquiétudes, par contre, on peut les courter. Et c'est ça le danger. L'inquiétude ne changera pas ton passé. Par contre, l'inquiétude contrôlera ton présent et détruira ton futur. C'est un fléau, l'inquiétude. C'est de là que le stress naît. L'inquiétude, c'est inutile. Jésus dit, si Dieu prend si merveilleusement soin des fleurs qui sont épanouies aujourd'hui et qui demain seront fanées, à plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous, ô homme de peu de foi ? Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis et il prendra soin de vous, dans 1 Pierre 5, 7. Cela signifie, écoute, quand tu as une charge trop lourde pour toi, qui t'écrase, prends cette charge-là et jette-la sur Dieu qui lui est capable de la porter. Arrête de garder tes soucis pour toi, en toi si tu préfères. Regarde ton voisin et dis-lui, arrête de garder tes soucis en toi. Dieu est là pour les prendre et les porter. C'est ce que Dieu veut. Deuxième point, si je veux me préserver du stress, je parle à Dieu à propos de tout. Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ne vous inquiétez pas, mais priez. Priez en toute chose. Écoutez bien ceci. Si une chose ne vaut pas la peine qu'on prie pour elle, alors elle ne vaut pas la peine qu'on s'inquiète pour elle. Amen. Dieu dit prie. Prie. Quand l'inquiétude arrive, prie, dépose ton fardeau. Parle à Dieu de ces choses. Vous savez, lorsqu'on s'inquiète constamment, Jésus dit qu'on réagit comme quelqu'un qui est athée, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui vit sans Dieu. Matthieu 6, verset 31. Ne soyez pas inquiets, encore une fois, en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il vous donnera tout le reste en plus. Jésus est en train de dire, lorsque ses enfants s'inquiètent constamment, ils sont en train de réagir comme des orphelins. Sans famille, sans père, sans Dieu. Ils ne réalisent pas qu'ils ont un Père qui les aime énormément. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions comprendre. Vous savez, le but de la prière est de le connaître lui avant toute chose. et de nous connaître en lui. Et de le rechercher lui, ce qu'il demande. Et ce qu'il demande, c'est qu'on puisse découvrir qui il est pour nous. Et qui nous sommes en lui. Et les besoins, il les répondra. Parce que vous savez quoi ? Si nous prions constamment pour nos besoins, on devient alors centré inconsciemment sur nous-mêmes. Ce qu'on veut. Il m'arrive parfois de prier en disant « Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ne pas répondre à tous les besoins que je demande. » Parce qu'il y a sûrement un paquet de besoins qui ne sont pas bons pour moi. Et que je demande quand même. Je dis « Heureusement, tu es un bon père et tu ne réponds pas à tout. » Parce qu'il est bon. Il y a un danger lorsque la prière devient le moyen prioritaire pour avoir une réponse à nos besoins, au lieu de devenir le moyen prioritaire pour développer notre relation avec Jésus et le connaître plus intimement. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour nos besoins, mais il est préférable que nos requêtes au sujet de nos besoins se fassent à partir d'une relation de plus en plus profonde avec Jésus. Se fasse à partir d'une position d'intimité. On sait qui il est pour nous. C'est beaucoup mieux comme ça. Parole de Dieu dit, s'il n'a pas épargné Dieu le Père, son propre Fils, alors que nous l'aimons pas, que nous étions ses ennemis, à combien plus forte raison maintenant que nous l'avons accepté, que nous sommes ses enfants, va-t-il pas pourvoir à nos besoins ? Amen. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Romains 8, 31 « Que dirions-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset est dangereux. Ce verset est extraordinaire. Mais il est bon de l'adorer, il est bon de le chanter, il est bon de le déclarer. Mais allons le vivre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, tous. Comment nous accordera-t-il pas tout avec lui ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Waouh! Cela signifie, attends, quand tu découvres ce que Christ a fait pour toi, tu commences à voir la vie autrement. Tu commences à vivre autrement. Je disais dans la semaine, si tu vis ta vie d'aujourd'hui, ou si ta vie d'aujourd'hui est plus influencée par les souffrances que tu as traversées, au lieu d'être plus influencée par les souffrances que Jésus a traversées, alors tu vas vivre une vie d'incrédulité. Parce qu'on doit vivre une vie aujourd'hui dans le présent en étant plus influencé par les souffrances qu'il a traversées au lieu d'être plus influencé et contaminé par les souffrances qu'on a traversées, que nous traversons. Parce que par ces souffrances, il vient nous donner un remède contre nos souffrances. Et c'est par le moyen de la foi. Lorsqu'on réalise que ce qu'il a fait à la croix pour toi et pour moi, c'est plus que jamais actuel. Et lorsqu'on le croit, qu'il est mort et ressuscité pour nous, alors on réalise qu'il est avec nous, qu'il nous aime. Et quand tu découvres de plus en plus l'amour de Dieu, la grâce qu'il nous a accordée, en nous donnant ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ, tu comprends qu'aucune situation ne peut te séparer de son amour. Tu ne laisses plus le doute parce que tu manques de finances, ou parce que ton couple va mal, ou parce que peut-être tu as mal réagi, impacté plus ta vie. Quand cela arrive, tu cours dans sa présence et tu te rappelles ce qu'il a fait pour toi. Tu te rappelles son amour pour toi. Et quand tu te rappelles son amour pour toi, tu es convaincu, pas qu'il y a 2000 ans uniquement, qu'aujourd'hui cet amour est accessible. Et quand cet amour, tu es enraciné dedans cet amour, tu découvres qu'il t'aime personnellement. Et quand tu commences à expérimenter et à voir la révélation qui t'aime personnellement, tu commences à avoir la force pour traverser les difficultés du moment. Parce que dans la prière, tu commences à t'identifier à ce qu'il a fait et à bénéficier de ce qu'il a fait pour t'aider à traverser tes difficultés avec sa force et sa puissance. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Amen. Troisième point. Si je veux me préserver du stress, je dois remercier Dieu en toutes choses. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. En toutes choses. Il y a des situations où tu n'as pas remercié Dieu pour la maladie, où tu n'as pas remercié Dieu pour la mort. Mais dans la maladie, tu peux le remercier de traverser avec sa paix, avec sa force. Tu peux le remercier pour la croix. Tu peux le remercier pour son sang. Tu peux le remercier pour le Saint-Esprit qui appelait le Consolateur. Il savait que toi et moi, on allait traverser des moments difficiles. Et non seulement il est mort et ressuscité, mais en plus il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui était semé dans nos cœurs. Et il est appelé le Consolateur. Et le Saint-Esprit vient nous consoler. Parce qu'il sait que dans les moments difficiles, si on le cherche, on aura besoin de sa consolation et d'être réconforté par lui. Il sait que, comme imagine, tu es un pilote d'avion qui traverse une tempête et qui voit réellement le brouillard, la nuit, l'orage, et il doit faire confiance à ses instruments pour arriver à destination. Il ne peut pas voler à la vue. Dans la tempête, c'est pareil, tu ne sais pas ce qui se passe, peut-être tu ne comprends pas. Mais les instruments te disent, il t'aime. Il est mort et ressuscité pour toi. Il a fait de toi une nouvelle créature. La croix ne révèle pas le péché, la croix révèle ta valeur. La croix révèle ta valeur. La croix dit, tu vaux le sang de l'agneau. Tu vaux la peine que je me fasse homme et que je meure pour toi. J'ai pas fait ça pour les anges. J'ai fait ça pour l'homme. Oh. La croix déclare ta valeur. Et là, dans la tempête, tu regardes à ses instruments, la croix, et tu mets ta confiance en Jésus. Tu regardes à ses instruments, la résurrection. Il nous a relevés, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Christ d'entre les morts. Tu es une nouvelle créature et tu te dis, oui, il m'a fait naître de nouveau. Je suis en Christ une nouvelle créature. Et tu regardes ses instruments et tu ne laisses pas les circonstances dire que tu es nul. Et tu ne laisses pas les circonstances te condamner. Et tu ne laisses pas les circonstances réellement t'accuser et enlever ta force. Et là, tu regardes au tableau de bord et tu dis non seulement tu es mort et ressuscité, mais tu m'as donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient te consoler. Et d'un moment d'intimité, il vient te fortifier. Et là, même si tu ne vois pas où aller, tu sais qu'il te guidera. Tu sais qu'il te conduira. Tu sais qu'il est là pour toi. Tu sais qu'il t'aime parce qu'il a prouvé à la croix. La croix révèle ta valeur. Mais nous avons le choix. Est-ce qu'on croit plus en les difficultés ou ce que les autres nous ont fait de mal dans le présent ou le passé qu'en ce que Jésus a fait pour nous? Lequel influence plus notre vie? C'est pour ça que je vous disais, nous devons apprendre à vivre notre vie d'aujourd'hui plus en regardant, en étant plus influencé par les souffrances qu'il a traversées, plutôt que les souffrances que nous avons traversées. Et le remercier en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » En toutes circonstances, remercie Dieu. Vous avez déjà vu toute une célébration sur la reconnaissance et la gratitude dedans cette série. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a de bons moments et de mauvais, mais c'est pas juste des fois il y a de bonnes périodes et des mauvaises, parfois il y a souvent les deux avec. Il y a souvent envie des bonnes choses et en même temps des mauvaises choses. Mais j'aimerais aussi te dire que même dans les mauvais moments, on peut toujours trouver quelque chose de bon. Toujours. Le fait d'avoir le souffle de vie de Dieu, même dans les moments difficiles, est déjà une raison pour le remercier. En plus de la croix, en plus de Samson, en plus qu'il est notre Rédempteur, notre merveilleux Sauveur, en plus du Saint-Esprit, en plus de sa parole qui nous fortifie, en plus de la foi, de l'amour qu'il nous manifeste, de l'espérance qu'il nous donne, de la vie éternelle. Mais déjà, on a le souffle de vie. Et comme j'ai dit lors des deux célébrations, je vais prendre cet exemple qui, je sais, a parlé à beaucoup. C'est le souffle de vie, comprenez bien ce que c'est. C'est là, au moment là, inconsciemment tous, on reçoit le souffle de Dieu comme ça. Et on le rend. On est tous, j'espère, en train de respirer là en ce moment. On reçoit le souffle de Dieu. Et on le rend. Mais un jour, on va recevoir et on va le rendre pour plus le reprendre. Alors quand on l'a, il est bon de le remercier quand même. Il est bon déjà de dire Jésus, je respire. Merci. Merci Jésus. Non seulement tu m'as créé, mais tu m'as racheté. Tu m'aimes, tu es mon Père, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es majestueux. Et tu contemples sa beauté, et tu contemples sa bonté, et tu contemples son amour. Et dans l'intimité, tu es émerveillé par sa grâce, tu es émerveillé par sa faveur. Il te donne le souffle, il te donne la vie. Il faut le remercier en toute chose. Amen. Le quatrième point. Si je veux me préserver du stress, je dois penser à de bonnes choses. Philippiens 4, verset 8 nous dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Wow. Le premier champ de bataille où le stress va essayer de obtenir la victoire, c'est dans notre pensée. Il faut que nous puissions commencer à triompher du stress dans le champ de bataille de la pensée. Vous savez, beaucoup de gens luttent contre la pollution de l'environnement. Gloire à Dieu. Luttent contre la pollution de l'air. Gloire à Dieu. Mais très peu luttent contre la pollution de leur propre esprit. Et laissent rentrer à l'intérieur n'importe quoi. Par la pensée. Laisse l'âme et l'esprit souiller par soit des images, soit la critique, la calomnie. Il n'est pas bon qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne soit pas vigilant à cela. Certains pourraient dire, oui, mais il faut être ouvert l'esprit. Est-ce que toi, tu laisses ta maison ouverte à n'importe qui? Est-ce que tu laisses n'importe quoi rentrer dans ta maison, chez toi? Non. Mais ton corps est la maison de Dieu. Alors n'est-ce pas n'importe quoi rentrer dedans aussi? Et l'apôtre Paul ici nous donne quelques moyens pour vérifier si ce qui rentre est bon. Il dit, vérifie si c'est vrai, vérifie si c'est bon, vérifie si c'est juste, si c'est pur, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est respectable, est-ce que c'est excellent, est-ce que c'est digne d'honneur? Est-ce que ça mérite la louange? Est-ce que ça mérite l'approbation? Fais attention à ce qui rentre et qui pollue l'esprit. C'est bon de lutter contre la pollution de l'environnement, mais la principale pollution, c'est celle de l'esprit. Donc fais attention. Cinquième point, si je veux me préserver du stress, je dois être heureux en toute chose. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement et je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder en toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout. Grâce à celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dit, c'est possible d'être content en toute chose, d'avoir la joie. J'ai appris, il y a un secret que j'ai découvert, il nous dit ici. Ce secret qu'il a découvert s'appelle le contentement. Mais comprenez bien ceci. Le contentement, ce n'est pas être fataliste. Ce n'est pas être négligent. Le contentement, ce n'est pas manquer d'ambition. L'apôtre Paul est peut-être, si ce n'est le, un des hommes de Dieu qui avait le plus d'ambition pour Jésus. Il voulait toucher Rome, il voulait bouleverser le monde. Il a touché Rome et il a bouleversé le monde. Il voulait implanter un paquet d'églises. Il a implanté un paquet d'églises. Il voulait élever des équipes. Il a élevé un paquet d'équipes. Le gars était ambitieux pour Jésus. Il voyait grand. Et il dit, je sais me contenter. Donc le contentement, ce n'est pas manquer d'ambition pour Dieu. Le contentement, c'est pas, ah ben ma fille donne ma vie au Seigneur, elle est bon maintenant. C'est pas ça. Le contentement, c'est l'inverse de la convoitise. Le contentement dont il parle ici, le secret dont il parle ici, c'est arriver à apprécier ce que j'ai maintenant aujourd'hui. Ça ne signifie pas que je ne veux pas progresser. Ça ne signifie pas que je n'ai pas de but pour ma vie. Le contentement signifie que j'ai appris à apprécier ce que j'ai maintenant même. J'ai appris à apprécier ma vie et ma relation avec Dieu. C'est ça le contentement. L'apôtre Paul est en train de dire, je ne vais pas laisser les circonstances créer en moi la joie. Je ne vais pas faire en sorte que ma joie dépende des circonstances. Je ne vais pas faire en sorte que ma joie dépende des gens. Parce que quand les gens sont bien avec moi, je suis dans la joie. Quand ils ne sont pas bien avec moi, je suis dans la tristesse. Quand les circonstances vont bien, je suis bien. Quand les circonstances ne sont pas bien, je ne suis pas bien. L'apôtre Paul dit, non. Le secret que j'ai appris à me contenter en lui. J'ai appris à me contenter de sa présence. J'ai appris à faire de Dieu ma joie. J'ai appris à le célébrer dans la relation que j'ai. J'ai compris que ce qu'il y avait de plus important pour moi dans le moment présent, c'était une relation intime avec lui. Il est ma joie. Ma joie dépend de lui. Ma joie, je le célèbre lorsque à chaque fois je repense à ce qu'il a fait pour moi. Lorsque je pense à la croix, lorsque je pense à son sang, lorsque je pense à la résurrection, je le célèbre. Il est ma joie. Et ma joie ne dépend pas des choses incertaines de ce monde qui change, mais ma joie dépend de ce qu'il a fait pour moi. Ma joie dépend de ma relation forte avec lui. Je sais me contenter. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris le contentement au travers de ma relation avec lui. Il fait mon contentement. Il fait ma joie. Voilà le secret que l'apôtre Paul a appris. Il a appris à se contenter en Dieu. Écoutez ce que Job, chapitre 22, verset 21 nous dit. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Réconcilie-toi avec Dieu et sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. C'est le cœur de Dieu pour nous. C'est d'arriver à trouver notre contentement en lui. Pas uniquement dans la réponse à nos besoins. Parce que notre principal besoin, c'est de le connaître lui. Et c'est ce qui veut nous encourager ce matin. Nous réconcilier avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, pour avoir la paix avec Dieu, ou si tu préfères, pour avoir la paix de Dieu, il faut avoir fait la paix avec Dieu. Cela signifie qu'on ne peut pas avoir la paix de Dieu si on est en guerre contre Dieu. On ne peut pas avoir la paix de Dieu si on n'a pas la paix avec Dieu. On ne peut pas avoir la paix de Dieu si on est en guerre contre Dieu. Qu'est-ce que cela signifie être en guerre contre Dieu? Un exemple. Si Dieu te dit pardonne et tu pardonnes pas, tu es en guerre contre lui, contre sa parole, contre sa vérité. Si Dieu te dit lâche son passé, arrête de voir ta vie au travers de ceux qui t'ont fait souffrir, mais vois ta vie au travers de ses souffrances, et que toi non, tu vois ta vie constamment, je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de mon passé, c'est à cause de lui, et tu veux camper là-dessus, tu es en guerre avec Dieu là. Tu ne fais pas la paix avec lui là. Et si tu ne fais pas la paix avec lui, tu ne peux pas avoir la paix de Dieu. Tu as la paix de Dieu lorsque tu fais la paix avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. C'est pour ça que Job dit, réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Et ce matin, le Seigneur me disait, ramène les chrétiens à Christ. Ramène les chrétiens à Christ. La parole de Dieu dit, Dieu a réconcilié le monde en n'imputant pas leurs péchés. Et ce matin, lorsque je priais, le Seigneur me dit, ramène les chrétiens à Christ. Réconcilie les chrétiens avec moi-même. Qu'ils comprennent que je ne leur impute pas leurs péchés. Qu'ils soient réconciliés avec ma parole. Qu'ils soient réconciliés avec ma vérité. Si tu veux la paix de Dieu, réconcilie-toi avec lui. Vous savez, souvent, vous entendez sûrement, vous avez déjà entendu sûrement dire, « Oh, je porte ma croix. » Mais tu ne peux pas porter ta croix et porter l'offense en même temps. Tu vas porter ta croix et porter le non-pardon en même temps. Tu ne peux pas porter ta croix et porter l'amertume en même temps. Parce que ça, c'est crucifié à la croix. Porter sa croix, c'est comprendre que je suis mort à moi-même. J'ai compris qu'il m'a tellement aimé qu'il m'a libéré. Il m'a libéré de quoi ? De moi. Et si je suis libre de moi, je suis libre de toi. Si je suis libre de moi, je suis libre de tout ce que tu peux me faire. Parce que moi est sur la croix. Moi n'est plus là. Mais Christ est là, en moi. Et Christ, par la croix, me permet de vivre une vie en nouveauté de vie, par la puissance de sa résurrection. Je suis crucifié avec Christ. La vie maintenant que je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc quand quelqu'un dit « je porte ma croix, mon enfant, mais je porte l'offense en même temps », c'est pas possible, tu peux pas porter les deux. Parce que la croix, la signification de la croix, c'est que l'offense, l'amertume, la haine, le péché et toute sa puissance, même la mort, a été crucifiée à la croix. Et à la croix, Christ a triomphé tout ça. Donc lorsque tout ça triomphe de nous, c'est qu'on porte pas notre croix, mais qu'on porte l'offense, l'amertume ou autre chose. Et Dieu veut qu'on se réconcilie avec lui en découvrant combien il t'aime toi. Et qu'au travers de ses souffrances, il veut te libérer de tes souffrances. À la croix, il m'a libéré. Si le Fils libère, alors vous serez réellement libre. Libre de moi-même. Libre d'être vraiment un fils de Dieu. Libre vraiment d'être une nouvelle créature. Libre d'aimer comme il aime. Libre.